Radio Campus, la radio des truffes.
Radio Campus 88.3.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour à tous, il est midi, vous êtes sur Radio Campus Orléans. Au programme, comme chaque jour, on commencera par un petit flash actu. Un tour de presse international, local et national, préparé avec Lucas. Puis on enchaînera avec l'interview de Muriel Barnou, médecin à l'antenne d'Orléans de l'établissement du sang français. En deuxième partie d'émission, vous découvrirez votre nouveau rendez-vous quotidien, l'instant lecture avec Faustine. Puis on terminera cette émission avec le reportage tourné la semaine dernière au Salon de l'Emploi avec Lucas et Juliette. Voilà, c'est dans Écoute ta fac aujourd'hui, c'est le programme. Il est midi une et on commence tout de suite en musique avec le titre Walk. Voilà, c'est parti.
Yeah.
Et c'est le son Affectation de Unipipo que vous entendez à notre antenne. Il est midi 8 sur Radio Campus Orléans. On va passer à la suite de l'émission avec, bien sûr, votre rendez-vous du Flash Actu.
C'est le Flash Actu sur Radio Campus Orléans.
Et on commence par l'international avec Donetsk, repris par les Ukrainiens. Trois villages repris dans la région de Donetsk. L'Ukraine a annoncé la reconquête dimanche de trois villages dans la région orientale de Donetsk. Les premiers gains territoriaux obtenus à la suite des actions de contre-offensive évoquées la veille par le président Volodymyr Zelensky. Sur le front de l'Est, les glorieux soldats de la 68e brigade ont libéré la localité de Blagodatné, qui comptait moins de 1000 habitants avant la guerre, ont affirmé les forces terrestres ukrainiennes. Le tout accompagné d'une vidéo montrant des militaires avec un drapeau ukrainien dans un bâtiment détruit. Moins de 3 heures plus tard, le service des gardes frontières ukrainiens a assuré qu'un deuxième village, celui de Neskouchné, dans la région de Donetsk, était à son tour à nouveau sous pavillon ukrainien. Et dans la soirée, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ghana Maliar, a annoncé qu'une troisième petite localité, Makarivka, proche de Blagodatné, était tombée aux mains des troupes de Kiev.
L'actualité internationale. Dimanche 11 juin, à Tunis, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, s'y rendait pour la seconde fois en 5 jours, ainsi que le Premier ministre irlandais Mark Rutte, l'Union européenne qui semble suivre l'actualité tunisienne d'un œil tout particulier. Sans doute s'inquiète-t-elle des risques de crise migratoire en cas d'effondrement de l'économie. L'actualité internationale qui se poursuit avec toi, Lucas.
Oui, tout à fait, Rodrigue. On part au Royaume-Uni après la démission de Boris Johnson. Les travaillistes demandent des élections anticipées. En effet, au Parlement, le chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer, a demandé dimanche des élections générales anticipées après la démission de Boris Johnson l'an dernier, qui a encore accru les divisions au sein du Parti conservateur. Les libéraux-démocrates ont également demandé des élections anticipées. Le temps est venu pour les citoyens d'avoir l'occasion de se prononcer sur ce gouvernement conservateur chaotique, a dit Daisy Cooper, la chef adjointe de ce parti. Et on poursuit avec les infos nationales, Rodrigue.
Les actualités nationales et l'attaque qui est marquée par l'attaque au couteau jeudi dernier à Annecy. 6 personnes qui ont été blessées, dont 4 enfants, après que la première ministre se soit rendue sur les lieux du drame. Le suspect a été transféré au centre pénitentiaire d'Eton en Savoie, où il a été placé en cellule anti-suicide. Voilà une info donc à suivre. Mais Lucas, tu vas nous parler également de salaire.
Oui, le salaire des fonctionnaires. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, reçoit les syndicats de la fonction publique aujourd'hui à Grenelle, donc au ministère du Travail. Après un hiver social tendu, il met un point d'honneur à poursuivre le dialogue social. La priorité est mise sur la question du pouvoir d'achat en ces temps d'inflation. Le gouvernement prévoit une hausse de 7,5 milliards d'euros par rapport au salaire pour l'année prochaine. Affaire à suivre donc dans les prochains jours par rapport à tout ce qui est colère sociale. On passe à l'info locale avec Rodrigue.
Et oui, plus près de vous, l'info locale, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, ce matin, c'est tenu à 11h une conférence de presse organisée par la FSU, la Fédération syndicale unitaire, pour parler des modalités et des conséquences du pacte de l'éducation nationale, ainsi que de la situation des lycées professionnels. Mais en local, ça n'est pas la seule actualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Lucas ?
Sur le point de vue de l'écologie, on va parler bien évidemment sécheresse dans le Loiret. La préfecture du Loiret prend deux nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau. Ce jeudi 8 juin, donc il y a 5 jours, face au dernier relevé effectué sur les cours d'eau du département, le Causson, le Loiret et le Duy, au sud de la Loire, sont désormais en crise. La sécheresse s'aggrave dans le Loiret en ce mois de juin 2023. De plus en plus de cours d'eau connaissent des niveaux très bas et de nouveaux territoires sont touchés par des restrictions de l'usage de l'eau, comme on l'a dit au sud d'Orléans, donc pas loin de la source. C'est ce qui ressort des derniers relevés effectués par les services de l'État sur les rivières et cours d'eau du département. Les cartes publiées par la préfecture montrent une accélération et un niveau assez alarmant. Donc peut-être qu'on n'est pas encore au niveau des Pyrénées orientales, mais il y aura peut-être des restrictions prochainement au fur et à mesure de l'été. Lucie, c'est à toi.
À moi, retour sur la canne à Orléans. Hier, la canne version lorettaine a eu lieu à Saint-Jean-le-Blanc. Le match opposait le Congo de Brazzaville à la Guinée. Le Congo a gagné 1-0 après avoir remporté les 6 victoires lors du tournoi.
Voilà, c'est la fin des Flash Actu. On va tout de suite passer à la suite de notre émission et notamment recevoir notre invité du jour, Muriel Barnou, médecin pour l'établissement français du sang, l'antenne de Orléans. C'est tout de suite l'invité du jour.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Et bonjour Muriel Barnou.
Bonjour.
On a préparé quelques petites questions pour vous. Avant de commencer cette interview, peut-être pouvez-vous nous parler, nous présenter votre parcours.
Eh bien, je suis médecin à la base, médecin généraliste. Puis j'ai fait de la cytogénétique avant d'aller rejoindre la transfusion sanguine où je travaille depuis 1994. Et depuis 2000, je suis responsable des prélèvements pour le site d'Orléans.
Et justement, aujourd'hui, par rapport à l'actualité, donc on le rappelle, les 15, 16 et 17 juin de cette semaine, c'est ça les dates
14, 15, 16.
14, 15, 16, donc au Campo Santo, une grande campagne de don du sang. Donc c'est important en ce moment par rapport à l'actualité, on va en parler pendant l'interview. Mais justement, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi, quelles sont les bonnes raisons de donner son sang en ce moment ?
Ben en ce moment et tout le temps hein, d'ailleurs, parce que les malades ont besoin de sang régulièrement, notamment pour toutes les personnes qui ont des problèmes de cancer, les leucémies. C'est la première utilisation du sang. Après, vous avez tout ce qui est intervention chirurgicale importante. Vous avez également les femmes qui accouchent et qui font des hémorragies. Et puis, vous avez les accidentés de la route.
Merci.
Alors nous, on s'est dit que ce serait intéressant de vous faire venir à l'antenne pour cette période. En effet, c'est la période estivale. C'est là où les besoins en sang restent constants, voire augmentent. Est-ce que vous pourriez expliquer cela ?
Alors, on a besoin de sang, comme je l'ai dit, hein, toute l'année. Mais c'est vrai qu'avant l'été, on aime bien avoir une petite réserve de sang parce que pendant le mois de juillet et août, les donneurs de la région ne sont plus ici. Ils sont partis sur leur lieu de vacances et on a un petit peu de mal à prélever le nombre de poches nécessaires pour les malades.
Et pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient donner leur sang, est-ce que vous pourriez nous détailler les critères nécessaires pour donner un sang de qualité ? Peut-être que certains se reconnaîtront dans les différents points que vous allez citer.
Alors déjà, pour donner, il faut être en bonne santé, il faut avoir entre 18 et la veille des 71 ans, peser plus de 50 kilos... Et quelque chose de très important, il faut avoir mangé, hein. Faut surtout pas venir à jeun et il faut s'être vraiment bien hydraté, surtout que là il va faire chaud. Faut bien boire depuis la veille. Nous on distribue en plus une petite bouteille d'eau de 500 ml juste avant le don pour que la personne puisse la boire avant de donner. Et sinon, faut être en bonne santé. Il ne faut pas avoir eu d'infection dans les 15 jours qui ont précédé. Il ne faut pas avoir de maladies graves, hein, notamment problèmes cardiaques, problèmes pulmonaires. Il y a certains voyages qui sont contre-indiqués pendant un certain temps. Si vous êtes allé dans un pays où il y a du paludisme, il faut attendre 4 mois pour pouvoir donner du sang, par exemple. Si vous êtes allé dans certains pays d'Europe, mais je ne peux pas vous les détailler là, c'est 28 jours. Pour pouvoir donner du sang. Après, il y a quelques médicaments qui contre-indiquent, mais très peu en fait. On contre-indique plus pour la raison pour laquelle le médicament est pris que pour le médicament lui-même. Les personnes qui ont été transfusées ne peuvent pas donner. Les personnes qui ont eu plusieurs partenaires dans les 4 derniers mois ne peuvent pas donner non plus. S'il y a eu un tatouage piercing dans les 4 derniers mois, c'est pareil, c'est une contre-indication. Une fibroscopie, c'est pareil, c'est 4 mois. Enfin, il y en a plein, ce sont des exemples.
Est-ce qu'on pourrait savoir justement pour les personnes qui n'ont jamais donné leur sang mais qui aimeraient sauter le pas, comment ça se passe quand on arrive à la maison du sang ou qu'ils vont arriver au Campo Santo ?
Alors, il faut venir avec une pièce d'identité. Il y a une personne au niveau de une secrétaire hein, qui va faire un enregistrement administratif. Après, il y a un petit questionnaire médical à remplir. Ça aide le médecin ou l'infirmière qui va faire l'entretien pour aller un petit peu plus vite. Après, le donneur potentiel va rencontrer soit un médecin, soit une infirmière, puisque maintenant, il y a des collectes où ce sont les infirmières qui font les entretiens. À la suite de l'entretien, on prend la tension, on vérifie si tout va bien. Et puis pour les premiers donneurs, on va faire un petit prélèvement au bout du doigt. On prend une petite goutte de sang pour vérifier que l'hémoglobine est normale, que la personne n'est pas anémiée. Après, si tout va bien, le donneur passe au prélèvement. Le prélèvement lui-même, ça dure une dizaine de minutes. On prélève une poche et des petits tubes qui vont servir aux analyses. Et ensuite, la collation, il faut rester une vingtaine de minutes. Ça permet de se restaurer, de bien s'hydrater. Et puis nous, ça permet de surveiller le donneur pendant ce temps-là.
Je voulais revenir sur les quantités de sang. Vous prélevez une poche, ça correspond à combien ?
Alors, ça dépend du poids et de la taille de la personne. On prélève entre 420 et 480 millilitres.
D'accord. Peut-être pour rassurer les plus réfractaires, ceux qui aimeraient donner leur sang, par exemple, mais qui ont peur des aiguilles. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont peur des aiguilles. Est-ce que vous auriez un message à faire passer ? Peut-être que vous offrez une collation qui pourrait...
Alors, il y a la collation après les aiguilles. Voilà, ça pique, hein, mais comme une prise de sang, pas plus. C'est juste un petit peu plus long. Après, les gens qui ont trop peur, il ne faut pas regarder. Ils regardent de l'autre côté. Ils peuvent être sur leur téléphone à regarder autre chose pour passer le temps ou discuter avec un ami à côté. Voilà.
Et justement, comment faites-vous le pont entre les donneurs et ceux qui en ont besoin ?
Alors, nous, on prélève hein, au niveau du prélèvement. Après, les poches sont envoyées pour notre région. Ça part à Poitiers, où là, elles vont être préparées, séparées en plusieurs éléments. D'un côté, les globules rouges, d'un autre côté, le plasma, et puis d'un autre côté, les plaquettes. Et pendant ce temps-là, les tubes vont aller à Angers pour être analysés. Une fois que les analyses sont normales, il y a un signal informatique, on va dire, qui va faire qu'on peut étiqueter la poche. Et après, les poches vont revenir vers les hôpitaux pour pouvoir être distribuées aux malades.
Est-ce que, tout à l'heure, vous pouvez nous expliquer c'est quoi la différence entre donner son sang et donner ses plaquettes ?
Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Le sang, on prend le sang tel qu'il est, hein, directement. Ça dure une dizaine de minutes. Mais à partir de la poche de sang, on peut prélever un petit peu de plaquettes. Mais à partir de la poche de sang. Par contre, il y a des dons de plaquettes, des dons d'aphérèse, où là, le donneur est branché sur une machine qui va prélever le sang. Il va... On lui redonne les globules rouges, on garde ce qui nous intéresse, les plaquettes et un petit peu de plasma. Et on fait ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait assez de plaquettes dans la poche. Et ce prélèvement-là, ça dure à peu près une heure. Mais ça, c'est spécifiquement à la maison du don de Saint-Jean-de-la-Ruelle. On ne se déplace pas en collecte avec les machines parce que c'est trop important, c'est trop fragile.
Est-ce que vous prélevez aussi la moelle osseuse là-bas ou
pas? Non, pas du tout. Nous, on peut inscrire des donneurs qui veulent s'inscrire sur le fichier de France Greffe de Moelle pour être donneur de moelle osseuse. Mais si quelqu'un est compatible avec un malade, le prélèvement pour la région, c'est à Tours.
D'accord.
Et combien de temps le sang se conserve-t-il lorsqu'il n'est plus dans l'organisme ?
Alors, les globules rouges, c'est 42 jours. Les plaquettes, c'est 7 jours. Et le plasma, comme on va le surgeler, c'est 1 an.
Et quelle est la situation du don du sang dans le Loiret ? Est-ce qu'on se porte plutôt bien par rapport à d'autres départements ?
C'est variable, ça dépend des moments. Hein, en fait, là récemment, on avait besoin de donneurs de O négatif. On était un petit peu en manque. C'est vraiment très variable. Hein, on fait des appels régulièrement parce que on a besoin de poches et faut qu'on ait suffisamment de poches en réserve pour pouvoir assurer les besoins qui sont constants.
Est-ce que pendant la période estivale, peut-être que le sang est plus compliqué à préserver ou pas du tout ?
Alors à préserver, nous, non. Pour nous, non, parce que on a des endroits à atmosphère régulée, donc le sang il est conservé à 4 degrés dans des espèces de réfrigérateurs. Les plaquettes, c'est à température ambiante, mais autour de 24 degrés. Et puis le plasma, il est surgelé à moins 30. On a tout ce qu'il faut pour conserver à la bonne température.
Et justement, il y a l'événement au Campo Santo. Est-ce que c'est la première fois, cette campagne massive de don du sang ?
Ça fait plusieurs années qu'il y a la Journée mondiale des donneurs de sang. En fait, c'est une journée qui a été mise en place pour remercier les donneurs. Et sur Orléans, c'est la deuxième fois qu'on va au Campo Santo. On essaye d'aller dans des lieux un petit peu atypiques, des lieux où les donneurs ont envie de venir. Et le Campo Santo est assez joli, je vais dire, comme endroit. Et c'est pour ça qu'on va là-bas. Et la mairie nous a prêté gracieusement le lieu. Donc, on s'installe à partir de mercredi.
Et vous allez être combien à pouvoir prélever le sang ? Alors, attendez combien de personnes ?
On attend, je vais vous dire ça. On attend sur la région, plus de 3000 personnes sur la région. Et nous, sur Orléans, si on pouvait avoir entre 300 et 400 personnes, ça serait bien. Voilà. Pour le moment, il reste encore des places pour s'inscrire parce qu'on préfère que les donneurs s'inscrivent sur mon rendez-vous don de sang, prennent un rendez-vous. C'est plus facile pour tout le monde. Ça évite que les donneurs attendent. Et puis nous, ça permet de régulariser les prélèvements. Donc, il reste encore des places pour s'inscrire 14, 15 et 16 juin. Donc, allez sur mon rendez-vous don de sang pour vous inscrire.
Mais les gens peuvent venir aussi de manière un peu spontanée ou alors, c'est mieux de réserver ?
C'est mieux de réserver parce que si les gens arrivent à un moment où on a plein de monde, on ne pourra pas les accueillir malheureusement. C'est mieux de réserver, on va sur le site, ça se fait en 2-3 clics et c'est plus facile.
D'accord, parfait. Peut-être une dernière petite question au niveau actualité. Alors, c'est peut-être un peu plus pointu par rapport aux annonces de François Braun. Est-ce qu'il y a eu des choses récemment par le ministère de la Santé pour aider les établissements français du sang ou pour le moment rien de neuf sous le soleil ?
Alors à ma connaissance, rien de spécifique, mais je peux pas, c'est pas trop mon domaine, donc je peux pas trop vous en dire plus.
Donc pour le moment, vous arrivez à subsister et vous avez quelques aides du gouvernement, mais rien de nouveau, si je comprends bien.
Non, pour le moment, enfin, à ma connaissance, je ne suis pas au niveau du siège. Nous, on est vraiment local au niveau du prélèvement Et en tout cas, le prélèvement est prioritaire pour l'établissement français du sang.
Voilà, c'est une de vos missions principales.
Voilà, c'est notre mission principale, c'est prélever des poches pour le malade. Et ça, c'est ce qui reste la priorité.
Merci beaucoup.
Bah de rien.
Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Peut-être avant de clôturer tout ça, nous rappeler les lieux où vous retrouvez, comment se renseigner et peut-être aussi des endroits sur lesquels les gens peuvent s'intéresser, se renseigner de façon ludique.
Alors, l'appli, enfin le site, mon rendez-vous don de sang, là, vous avez vraiment tous les lieux où on peut donner du sang. Hein. C'est sur l'Orée, mais sur toute la France. Vous allez sur le site, on vous demande à quel endroit vous voulez donner. Donc, vous mettez soit la ville, soit le code postal. Et puis, vous cliquez sur les lieux. Et là, vous allez avoir les endroits où il y a des dons de sang, hein, près de l'endroit qui vous intéresse. Et puis, les créneaux de rendez-vous libres. Et puis, on peut s'inscrire. Sinon, sur Orléans, on a aussi la maison du don à Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui est 190 rue Léon Foucault, mais qui sera fermée les 14 et 15 juin, parce qu'on n'a pas assez de personnel pour faire les deux en même temps. Ça sera ouvert le 16 juin, par contre. Et on peut aussi s'inscrire pour donner du sang à la maison du don, sur rendez-vous également.
Ce manque de personnel, vous venez de le souligner, on le sent beaucoup à la maison du sang.
Bah, on le sent régulièrement. Il y a des personnes qui partent à la retraite, qu'on a un peu de mal à remplacer. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en profite pour être, comme je suis à l'antenne, pour vous dire qu'on recherche des infirmières et des médecins. Les personnes qui veulent postuler peuvent se rendre sur EFS Recrute en mettant Loiret, enfin médecin, infirmière. Il y a des postes d'ouverts, donc on recherche du monde, pas tout le temps, mais très souvent, oui.
Et puis c'est intéressant aussi, ça fait écho avec la visite de Stéphanie Rist, donc députée, excusez-moi pour la politique, mais c'est quand même intéressant au niveau local et puis aussi national, qui a visité un établissement de santé à Jouy-le-Potier, donc dans le département la semaine dernière, et qui annonçait qu'il y aurait une proposition de loi de meilleure rémunération des soignants, justement, pour faire face à ce manque de personnel.
Bah, c'est toujours une bonne nouvelle.
Voilà, à voir si dans les faits, ça sera vraiment le cas.
Je sais que dans les centres de vaccination, on engageait des étudiants en médecine pour faire les piqûres. Est-ce que ce serait aussi le cas pour les prises de sang?
Oui, alors pas pour les prises de sang, mais pour les entretiens médicaux. Maintenant, on a le droit de prendre des étudiants à partir de... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la deuxième année des étudiants, deuxième année de médecine. Mais on a le droit depuis quelque temps de faire ça et on les forme comme le reste du personnel. Alors malheureusement, à Orléans, il n'y a pas de... fac de médecine directement, on va dire, et pour le moment, on n'a pas d'étudiants en médecine.
Bon, et bien, s'il y a un étudiant en médecine qui nous écoute...
Voilà.
Le secteur de la santé est un peu en mal à Orléans, mais ça va s'améliorer dans les prochaines années, on l'espère, avec la fac de médecine.
Oui, j'espère aussi.
Merci encore, Madame Barnot, pour être venue sur notre antenne. Et puis, Rodrigue, on poursuit sur quoi?
Voilà, donc avant et pendant l'été, le nombre de donneurs qui diminue en raison des départs de vacances, cela entraîne un baisse de stock du sang disponible. Il est essentiel, comme vous venez de l'entendre, de donner son sang avant l'été pour contribuer à maintenir les réserves. Merci à Madame Barnou. On revient donc avec le titre Affection que vous avez pu commencer à écouter tout à l'heure. Et on se retrouve dans quelques minutes pour votre instant lecture. Thank you. Et c'était Affection que vous venez d'entendre à l'antenne de Radio Campus Orléans. Il est midi 34. Merci d'être avec nous. Et on se retrouve pour l'instant lecture avec Faustine. Bonjour Faustine.
Eh bien bonjour Rodrigue. Aujourd'hui, on va parler du coup de l'instant lecture. L'instant lecture, il y a toujours un sujet d'actualité avec. Et aujourd'hui, on est le 12 juin. Et le 12 juin, c'est quoi ? C'est la journée mondiale contre le travail des enfants. D'abord, on va parler de quelques chiffres. Selon les Nations Unies, début 2020, on avait quand même un enfant sur 10 âgé de 5 ans qui était, ou plus d'ailleurs, qui était impliqué dans le travail des enfants dans le monde. C'est environ 160 millions d'enfants, soit environ 63 millions de filles et 97 millions de garçons. On voit quand même quelques améliorations depuis 20 ans. On a eu quelques progrès significatifs déjà. De 2000 à 2020, le travail des enfants a diminué de 85,5 millions. C'est toujours pas ça, mais c'est déjà mieux. Et du coup, quelle lecture est-ce qu'on va avoir aujourd'hui pour pouvoir parler du travail des enfants ? Et bien, on va parler de Victor Hugo, dans son recueil Les Contemplations, qu'il a sorti en 1856. Il a d'ailleurs écrit dedans le poème, qui est assez long en alexandrin, de Mélancolia, qui dénonce l'industrialisme, et particulièrement dans un extrait, le travail des enfants que nous allons lire aujourd'hui. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent, tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur ! La cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien lasses. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas ! Ils semblent dire à Dieu, petits comme nous sommes. Notre Père, voyez ce que font les hommes. Ô servitude infâme, imposée à l'enfant ! Rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée. Et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais, qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère. qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on se demande, où va-t-il ? Que veut-il ? Qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une machine, une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail, haï des mères, soit maudit. Maudit comme le vice où l'on s'abattardit. Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même. Au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. C'était Mélancolia de Victor Hugo.
Et merci beaucoup Faustine pour ce premier instant lecture plein d'émotions. On va prendre le large et on va partir dans une Hutchence avec le titre Hutchency de Will Lister.
Thank you.
Et c'était le titre Agency de Will Lister que vous venez d'entendre à l'antenne. Et si vous voulez trouver du travail dans une agence, Lucas et Juliette vont peut-être pouvoir vous aider. Ils sont allés la semaine dernière au Salon de l'Emploi et du Numérique. Écoutez-les, ils vont un peu plus vous en parler.
Oui, en effet, Rodrigue, avec Juliette, on s'est rendu jeudi dernier sous un soleil de plomb, place du Martroi, pour le Salon de l'Emploi et du Numérique organisé dans le cadre des Human Tech Days par la région Centre-Val de Loire. Donc c'était l'occasion pour différentes formations ou bien structures d'accompagnement pour les jeunes d'expliquer les métiers du numérique. Et notamment, Juliette, on a rencontré un des responsables d'une école axée sur les métiers du numérique en Centre-Val de Loire. Tu peux nous en parler un peu ?
Tout à fait. Donc, on va tout de suite écouter le témoignage d'un des responsables du CEFIM, qui est une école en apprentissage qui est donc axée sur les métiers du numérique, qui accueille des étudiants dès la fin du bac. On les retrouve rue du Faubourg-Bannier à Orléans.
Je suis Othman Benchaban, je suis chargé de développement pour le CEFIM. Donc on est là aujourd'hui pour parler du CEFIM. Donc on est un centre de formation basé à Tours depuis 20 ans et à Orléans depuis quelques années. Et on propose des formations de bac à bac plus 5 et on est exclusivement dans le numérique. Et on a trois principales filières, donc web et développement, web marketing et puis tout ce qui est infrastructure, cybersécurité, etc.
Et concrètement, qui est-ce que vous ciblez dans les étudiants orléanais et par rapport au terreau universitaire ici, quelle est la cible ?
Alors la cible, on a, j'ai envie de dire, de tout. On a des jeunes, des moins jeunes, des bacheliers qui viennent d'avoir le bac, qui n'ont pas forcément de parcours, de projet professionnel qui est totalement défini. On a des personnes qui sont en réorientation, des personnes qui sont en reconversion. Et si justement on essaie de rassembler tous ces gens-là et on essaie de les guider, de les accompagner dans leurs projets professionnels et de leur proposer les formations les plus à même. On est présent donc à Orléans, donc on est au 122 rue du Faubourg-Bannier, juste derrière la station de tramway Coligny.
Donc c'était Othman Benchaban pour l'école le CEFIM, rue du Faubourg-Bannier à Orléans, on le rappelle. On va poursuivre avec l'interview d'un des représentants de l'APEC, l'association des cadres de la région Centre-Val de Loire. Il va nous parler de sa présence au Forum des métiers et du numérique à Orléans. On s'écoute ça tout de suite.
Donc, je suis Geoffrey Matt, je suis consultant en développement professionnel au sein de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Et donc je suis là aujourd'hui pour parler conseil en évolution professionnelle et pour représenter l'association.
Quels sont les enjeux avec la jeunesse et les étudiants par rapport au numérique et aux métiers et aux postes de cadre ?
Alors il faut savoir que l'APEC, on intervient auprès des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur à partir de Bac plus 3, tout domaine de qualification confondu. Donc ça peut être jeunes issus du numérique comme d'autres filières. Après, je dirais que les enjeux, c'est qu'on est sur un métier ou plutôt une famille de métiers qui sont très porteurs, où il y a vraiment des perspectives et des débouchés. Et du coup, on reçoit pas mal d'étudiants qui sont en questionnement sur ces métiers-là ou qui veulent valider plus d'acquis sur ces métiers en cherchant, par exemple, une alternance, un stage, de quoi accéder à un grade de master, par exemple. En tout cas, si un étudiant a besoin d'être accompagné dans cette perspective, il peut mobiliser gratuitement les services de l'APEC. On a un centre à Orléans, une antenne à Tours. Et c'est, voilà, c'est accessible librement à partir de Bac plus 3.
Donc c'était un des responsables de l'APEC, association pour les entrepreneurs et les cadres. Maintenant Juliette, tu vas nous parler de Decanum. Qu'est-ce que c'est Decanum ?
Eh bien Decanum, c'est une association qui est surtout centrée sur l'éveil en numérique et qui va s'intéresser à des enfants dès l'âge de 9 ans. Et on a justement rencontré un de leurs présidents au salon du numérique.
Donc Decanum, en fait, c'est une association, loi 1901. Et donc Decanum, ça veut dire découvrir et apprivoiser le numérique. Et notre objectif pour l'association, c'est de faire découvrir les sciences à travers le numérique et le numérique et la robotique auprès des jeunes, donc 9 à 16 ans. Et pour ce faire, on utilise en fait le programme de la First Lego League, qui est un programme international composé de robots qu'on fait programmer par des jeunes, donc qui sont organisés par équipe. et par saison. Donc chaque saison, on a une thématique. La saison dernière, c'était sur l'énergie. Donc les jeunes ont programmé des robots, ils ont des missions à remplir. Ils ont aussi un projet d'innovation sur lequel ils doivent se pencher, réfléchir à une problématique. Donc en l'occurrence, l'année dernière, c'était l'énergie. Donc comment on produit l'énergie autrement ? Certaines équipes décident de produire de l'énergie avec des anguilles, d'autres avec des turbines qu'on met dans des robinets. Quand les gens se lavent les mains, ça produit de l'énergie. Voilà, c'est à chaque équipe imaginer quelque chose, même si ça semble farfelu, c'est d'aller au bout de cette idée-là en allant rencontrer des professionnels, évaluer son idée, évaluer la solution qu'ils vont proposer pour vraiment suivre une vraie démarche scientifique. Donc cette partie-là est très importante. Donc c'est parfois les projets sont accompagnés par des enseignants, donc on propose ce type de projet aux enseignants, école primaire, collège, mais des équipes privées ou des équipes issues d'associations, des regroupements de parents par exemple, les enfants peuvent aussi participer. Donc la saison elle se déroule entre septembre et le mois de mars, on organise une régionale, donc l'association accompagne les établissements et les équipes qui vont participer à la compétition, on organise une finale régionale qui allait ensuite qualificatif pour la nationale. Et ensuite, le représentant de la France va à Houston et sur des Open à l'étranger comme Marrakech cette année ou à Sydney. Une équipe va partir à Sydney sur le mois de juillet. Voilà, donc c'est ça. Ça leur offre quand même une perspective d'aller loin s'ils ont envie. Alors les jeunes aujourd'hui, en fonction de leur niveau, de leur âge, ils commencent, alors 9-10 ans, ils font du scratch. Donc ça, c'est langage par bloc de mots. Et puis après, ils peuvent aussi faire du Python en fin de troisième. Il y a quelques lycéens qui participent, ils peuvent programmer en micro-Python. Et le robot en lui-même, il peut être très très simple. On gère des déplacements, ils ont des capteurs de lumière, capteurs de luminosité, un gyroscope intégré. Donc on peut aller très très loin dans la complexité de programmation. Alors nous, notre tranche d'âge, c'est vraiment 9-16 ans. Donc là, on est vraiment jusqu'au lycée. Après, le programme tel qu'il est aujourd'hui, il s'adresse à cette tranche d'âge-là. Mais il existe d'autres compétitions qui emmènent les jeunes vers 18 ans. Là, on est vraiment fin de lycée, même début des études supérieures. Alors, l'avantage de... Alors, nous, en fait, comme on incite les jeunes, on veut inciter les jeunes à venir vers les sciences. On sait qu'on a une difficulté aujourd'hui dans ce domaine-là. Et on veut aussi inciter les jeunes filles à s'intéresser à ce domaine-là. Le constat qu'on a fait au fil des ateliers qu'on a menés, c'est que les filles et les garçons sont intéressés aussi bien les garçons que les filles quand ils sont en primaire. CM1, CM2. Par ailleurs, quand on fait ce type de projet et qu'on présente ce projet aux parents, parce que la compétition, elle se déroule un samedi, où les parents peuvent venir, ils découvrent le projet que les enfants ont pu faire durant l'année, il y a énormément d'échanges qui se font entre les enfants et les parents à cet âge-là. Donc, et on compte sur l'échange qu'il peut y avoir entre parents et enfants. Et par ailleurs, on organise en fait des coding goûter qui sont des moments de rencontre où les enfants viennent programmer, accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et c'est ce moment d'échange qui, on l'espère, va nourrir en fait l'envie que peuvent avoir des garçons et des filles à poursuivre vers le domaine scientifique. Parce que à travers le jeu de la programmation, ils font des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Bon, ils ne s'en aperçoivent pas, mais c'est ce qu'ils font en réalité. Et c'est ça qu'on veut pousser.
Donc on a écouté le président de l'association Décanome sur Radio Campus Orléans, qui était présent au Salon de l'emploi et du numérique, Place du Mar 3, jeudi dernier à Orléans, qui nous a parlé de l'éveil numérique chez les jeunes, notamment avec le codage. C'était très intéressant. Et maintenant, on reste sur cette structure de l'enseignement et de l'éducation avec Laurent, qui nous vient du rectorat et qui va parler des missions numériques du rectorat en centre Val-de-Loire sur l'Académie Orléans-Tours. On s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus.
Alors, je suis Laurent Neveu, je suis du rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours et je représente le campus des métiers et des qualifications transformation numérique qui s'intéresse à des métiers du numérique, bien sûr, et plus particulièrement à la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Donc on est là pour répondre aux questions des jeunes, mais des moins jeunes aussi, puisqu'on s'intéresse de Bac-3 jusqu'à Bac+5 sur la formation initiale comme sur la formation continue. Donc on intéresse aussi des adultes en reconversion.
Et combien d'étudiants à peu près en centre Val-de-Loire et à Orléans spécifiquement dans ces domaines du numérique ?
Alors sur le domaine du numérique, plus particulièrement sur l'université d'Orléans, on a environ 3 à 4 000 étudiants. Si on ajoute en plus les filières BTS, les écoles privées de type CEFIM, qui est sur la personne en reconversion, on rajoute environ 500 étudiants, 500 apprenants.
Justement, quelle est la spécificité du territoire en termes de numérique ?
C'est un territoire qui rencontre de gros besoins en recrutement sur ces fonctions intelligence artificielle, cybersécurité. Alors, il faut savoir que sur le campus, on couvre les métropoles de Tours, les métropoles de Bourges et plus généralement tout le territoire régional. On a une expertise cybersécurité sur l'INSA à Bourges. On a une expertise un peu plus développée sur l'intelligence artificielle à Tours, notamment avec l'IUT et ses antennes de Blois. Et sur Orléans, on a une spécificité sur les métiers du numérique liés au secteur banque-assurance.
D'accord. Et justement, donc on a parlé de cet enjeu. Par rapport à l'actualité, de quelle manière le ministère aide à la transition numérique en région Centre-Val de Loire?
Alors, le ministère développe ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir. Donc, il nous propose des projets, de poser des projets et de trouver les moyens financiers justement de développer la filière numérique en région Centre-Val de Loire. On a un petit souci aujourd'hui, c'est d'attirer les jeunes et les moins jeunes vers ces métiers-là, faire découvrir ces métiers, parce que la plupart du temps, ce sont des métiers méconnus et ils se résument souvent à du développement, c'est-à-dire être tout seul derrière un écran avec des lignes de code. Alors que les métiers du numérique, il faut savoir, c'est environ 400 métiers différents et qui sont surtout ouverts aussi aux filles. On manque terriblement de public et de candidatures féminines sur ces métiers.
Justement, comment on touche la petite corde sensible de ces jeunes pour leur donner envie de se lancer dans cette aventure du numérique en Centre-Val de Loire?
Eh bien, on essaye de les faire manipuler, de leur faire découvrir par eux-mêmes ce qu'est la réalité des métiers du numérique, comment on travaille tous les jours, on leur fait visiter les entreprises, voilà quelles sont vos conditions de travail, voilà ce que vous serez amené à faire au quotidien pendant votre vie professionnelle et les possibilités d'évolution. On peut commencer simple développeur et gravir les échelons vers des postes sur le consulting, sur l'ingénierie des systèmes d'information.
Merci. Une question ?
Et c'est un système, je vais rajouter, où les jeunes ou les moins jeunes en reconversion sont sûrs de trouver un emploi et avec une rémunération plutôt intéressante.
Merci beaucoup.
C'était Laurent sur Radio Campus Orléans du rectorat qui nous a parlé de l'émission du numérique à l'Académie Orléans-Tours. Juliette, maintenant on va passer à la mission locale.
Oui, donc nous avons rencontré à la place du Mars 3 au salon également une des responsables de la mission locale d'Orléans. Qui nous a expliqué les différentes missions qui donnaient aux jeunes qui venaient les voir, qui concernaient le numérique. Et on écouta tout de suite.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça sert la mission locale et qu'est-ce que ça représente?
Oui, tout à fait. Donc la mission locale, c'est une association. On est situé à Orléans, en centre-ville, 9 boulevard de Verdun. Et on accompagne les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui ne sont plus dans une scolarité, vers leur objectif professionnel. Donc on va pouvoir travailler sur l'orientation professionnelle, choisir sa voie professionnelle, avoir de l'information sur les secteurs d'activité, les métiers, pouvoir aller expérimenter un métier par des périodes de mise en situation professionnelle, c'est-à-dire des stages en entreprise. Et puis, une fois qu'on a fait un choix, voir ensemble quelles sont les différentes façons d'accéder à ce métier, de se former pour accéder à ce métier. Donc on a accès à toutes les formations qui sont financées par la région Centre, qui sont ce qu'on appelle la formation continue pour adultes, et qui sont accessibles dès 16 ans en fait. Donc après on accueille beaucoup de jeunes qui ont fait un choix d'études et qui se rendent compte au bout de quelques mois ou des fois au bout d'un an, deux ans, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas fait... ils ont expérimenté, ça ne leur convient pas en fait. Il faut surtout pas vivre ça comme un échec. On a essayé, donc c'est bien. Faut toujours essayer, faut aller de l'avant. Et puis, on les aide à rebondir, à réfléchir à autre chose qui leur permet d'ouvrir d'autres portes, d'autres perspectives, d'autres possibilités.
Une autre question.
Et est-ce que du coup vous avez une sorte de centre psychologique peut-être pour aider les jeunes les jeunes qui peuvent peut-être se sentir un peu déprimés, d'être un peu hors du chemin, pas vraiment comme les autres. Est-ce que vous les aidez aussi psychologiquement au-delà de retrouver une reconversion dans un travail, dans un autre domaine d'études?
Oui, tout à fait. J'ai deux collègues qui sont psychologues. qui sont salariés de la mission locale. Donc à la mission locale, vous pouvez avoir accès à des rendez-vous avec ces psychologues gratuitement. Voilà, ça fait partie de l'accompagnement, effectivement. Vous savez, avec le Covid, hein, on n'en parle plus trop, mais bon, on sait qu'il a fait beaucoup de dégâts, notamment sur la population étudiante. C'est compliqué quand on est loin de chez soi, de se retrouver isolé. Et donc ça a laissé des marques. Et ça fait vraiment partie intégrante de l'accompagnement. Quand on ressent ce besoin, on le propose. On propose un rendez-vous avec nos collègues psychologues. Et c'est à la personne de décider si elle souhaite ou non. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation à la mission locale. Il n'y a pas de jugement non plus. On n'est pas là pour ça. On est là pour... Moi, j'appelle ça ouvrir... découvrir l'arbre des possibles.
C'était la responsable de la mission locale sur la mission du numérique dans le Loiret. On était avec Juliette justement jeudi au Salon de l'Emploi et du Numérique Place du Martroi et on vous a réalisé toute une petite série de reportages que vous venez d'écouter sur Radio Campus Orléans. Maintenant, je passe la parole à Faustine qui va nous annoncer le programme du jour sur Radio Campus.
Mais tout à fait, nous aurons par exemple de 13h à 14h Polémix pour le rendez-vous hebdo, magazine JB Diaz. Histoire et actualité, évidemment. Ensuite, de 17h à 18h, nous aurons Turbulence pour des repérages musicaux à ne pas manquer. Et enfin, de 18h à 19h, ce sera le Saint-Disque, un hebdo avec des mix DJ du collectif Le Saint-Disque. Ne manquez pas tout ça sur Radio Campus.
Et voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Il est midi 59 sur Radio Campus Orléans dans l'émission Écoute ta fac. Avant de se retrouver demain, on part en exil avec le titre Exil du coup de Yalta Club.